a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie.
Le ministre Bentrop vient même à Paris signer avec Georges Bonnet une déclaration de bon voisinage le 6 décembre 1900.
Déclaration d'aujourd'hui, la France et l'Allemagne qui constituent l'amitié, sont tombés d'accord pour mettre conflit de frontières en réciproquement leur territoire. Il était la voie à une reconnaissance.
Je n'ai pas la même. Et pour vous dire que je ne sais pas de plus beau poème que cette phrase de mon by me signifie cette famille.
De cette déclaration commune générale, une contrée à toute la valeur, elle marque une époque dans cette œuvre de réconciliation et de coopération. À la
en cet automne de 1938, le souci principal du gouvernement est de rétablir. C'est Paul Reynaud qui se charge de cette tâche difficile que réclame depuis plus d'un an Joseph Caillaux.
Mon passé me confère le droit d'affirmer que la patrie est en péril, sinon volonté pour la réhabilitation du travail libérateur et sacré, dont on n'a que le pouvoir éviter les sévérités.
Les aménagements des lois sociales de 1936 provoquent le 30 novembre une grève de la CGT qui échoue. Ce même jour, une brusque poussée de folie revendicative se manifeste en Italie. Ludovic Oscar Frossard, ancien et futur ministre, en parle sur les ondes.
Des députés italiens réclamant la Tunisie et même la Corse, malgré la présence de M. François Poncet, notre ambassadeur, dans la tribune diplomatique, et sans que s'élève un simple rappel à la courtoisie de la part du comte Ciano ou de M. Mussolini, les cortèges de jeunes fascistes qui parcourent la ville éternelle, ponctués de cris hostiles à notre pays, ne sont pas des incidents de médiocre portée. Ils n'expriment pas seulement un état d'esprit des plus fâcheux. On peut et on doit les considérer comme l'affirmation d'une politique capable de menacer à nouveau la tranquillité de l'Europe.
Pour répondre à ces revendications, Daladier entreprend au début de janvier 1939 une tournée triomphale en Corse, en Tunisie, en Algérie. Il exalte la future fraternité d'armes.
Je veux avoir une pensée toute particulière pour les chefs des Arabes et des Kabyles qui sont venus une fois de plus avec la noblesse de leur race, en une heure difficile, dire aux Français qu'il le fallait comme il y a 20 ans, nous serions à vos côtés, car nous n'avons qu'un drapeau, et c'est le drapeau tricolore de la liberté, de l'égalité, de la fraternité.
Avant même les accords de Munich, les Russes et les brigades internationales ont abandonné l'Espagne républicaine. Au mois de janvier, Franco s'empare de la Catalogne.
Je revois les grands sombreros et les mantilles. J'entends les airs de fandangos et séguédilles.
Geneviève Tabouille déplore la victoire des nationalistes.
La plus importante pour Berlin et Rome est celle de savoir si Paris et Londres vont soutenir les républicains espagnols dans cette lutte décisive pour la Catalogne, ou bien si, effrayés par les possibilités qu'aurait alors ce geste, ainsi que le répètent les dictateurs, les démocraties s'abstiendront. Dans ce cas, Mussolini se montrerait confiant sur le développement des événements. D'ailleurs, ce soir, les bruits qui persistent à Rome dans les milieux étrangers ne semblent pas confirmer l'optimisme qui s'était répandu, surtout en Angleterre, au sujet de l'attitude italienne. On assure que Mussolini n'a aucune intention de mettre fin à sa campagne contre la France. Seulement, le Duce est maintenant décidé à choisir lui-même le moment où il posera de façon spectaculaire ses revendications méditerranéennes et africaines.
Il est certain que de son côté, Mussolini considère la prise de Barcelone comme une victoire personnelle.
La splendida vittoria di Barcellona è un altro capitolo nella storia della nuova Europa che noi stiamo creando. La parola d'ordine, la parola d'ordine dei rossi era questa: no pasarán. Siamo passati e vi dico, e vi dico che passeremo.
C'est en effet Mussolini qui paraît maintenant en flèche, tant les propos de Monsieur Hitler sont rassurants le 30 janvier.
Deutschland hat gegen England und Frankreich keine territorialen Forderungen, außer der Rückgabe unserer Kolonien. Ich glaube, dass wenn es gelänge, der jüdisch-internationalen Presse und Propagandahetze Einhalt zu gebieten, die Verständigung unter den Völkern sehr schnell hergestellt werden würde. Nur diese Elemente unentwegt auf einen Krieg. Ich aber glaube an einen langen Frieden.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau.
Cette modération inhabituelle du Führer ne trompe pas la vigilance de Laroque, toujours en éveil devant le danger allemand.
L'audience passionnée, indiscrète, accordée par l'opinion et ses dirigeants aux manifestations oratoires du Führer et du Duce est humiliante pour notre pays. Ne sait-on pas que les dictateurs, en vertu de raisons personnelles, psychologiques, morales, financières et autres, sont obligés à des poussées périodiques de surenchère verbale? L'affolement suscité par telle déclaration, par telle campagne de presse officieuse, est aussi déplorable que l'apaisement provoqué par une baisse momentanée du ton de ces messieurs. Plus la galerie s'excitera, plus les dictateurs seront portés à jouer de leurs verbes successivement menaçants et adoucis.
Si Léon Blum a reconnu son lâche soulagement devant les accords de Munich, il ne se fait aucune illusion sur les dangers à venir et sur la précarité de la paix.
Nous restons en attendant, face à face, avec les durs problèmes que pose l'Europe d'aujourd'hui. Nous sentons toujours suspendus sur nous les mêmes dangers auxquels le gouvernement français ne pourra parer qu'à force de clairvoyance, de fermeté et de droiture en s'imposant strictement le devoir de dire ce qu'il pense, de faire ce qu'il dit, de vouloir ce qu'il fait.
Quant à Henri de Kérylis, virulent adversaire de Munich, il compte un peu prématurément sur l'aide militaire américaine.
À Belgrade, le ministre germanophile et italophile Stojadinovich s'est effondré. À Londres, M. Chamberlain s'est décidé à déclarer, comme il aurait dû le faire avant d'aller à Rome, son étroite solidarité avec la France. À Washington, le président Roosevelt, alerté par ses chancelleries sur l'imminence du drame, s'est livré à la manifestation oratoire que vous savez. Manifestation sur laquelle son démenti n'a trompé personne. Il a d'ailleurs fait beaucoup plus de parler. Il a agi en autorisant la France à passer une commande de 600 avions.
En En attendant les avions, c'est le premier dessin animé de long métrage que nous envoient les États-Unis.
Poursuivons ce panorama politique avec un représentant du centre, Pierre-Étienne Flandin, qui fustige le défaitisme belliqueux.
L'autarcie est une erreur économique. Mais ce serait aussi bien une erreur pour certains d'en vouloir sortir par le fer et par le feu que pour d'autres d'y enfermer volontairement certains peuples ainsi condamnés à une asphyxie progressive. La première tâche à entreprendre, c'est d'éteindre les brasiers qui fument encore en Europe. Et je suis de ceux qui ont toujours pensé que ceux qui les entretiennent par idéologie passionnée ou par ce défaitisme belliqueux si curieux à observer chez quelques-uns de nos professeurs de superpatriotisme vont à l'encontre des intérêts réels de la France.
Avec Salomon Grumbach, nous voici à la gauche du Parti Socialiste et là aussi, on compte trop facilement les États-Unis au rang de nos futurs alliés.
Le secrétaire d'État des États-Unis, M. Cordell, a déclaré il y a quelques jours « L'isolement n'est pas le moyen pour assurer la sécurité. C'est vrai pour tous, pour nous, la France, pour l'Angleterre, pour l'Amérique, pour tous les peuples qui veulent défendre la paix, qui est certainement menacé par le bloc de guerre que constituent certains États qui se réclament de la force et de la violence pour agrandir leur domination dans le monde.
À l'extrême gauche, les communistes, violemment anti-munichois, approuvent les dépenses de réarmement et Maurice Thérèse compte évidemment l'URSS parmi nos meilleurs alliés.
Personne ne peut plus, de bonne foi, douter des dangers menaçants qui pèsent sur la France et sur la paix. Le président du Conseil a dit lui-même l'autre jour, nous aurons cette année un certain nombre de caps redoutables à franchir. Dès le 4 octobre, peu convaincu lui-même de la solidité de la paix munichoise, M. Daladier avait demandé l'augmentation des crédits de la défense nationale. On dépensera cette année plus de 40 milliards pour faire face, le cas échéant, à l'agression des États fascistes. C'est une course à la ruine et à la mort. Cependant, nous avons dit que nous-mêmes, communistes, étions prêts à prendre la responsabilité de l'effort qui s'impose à notre peuple s'il veut demeurer libre et grand. Nous croyons, certes, que la paix doit être fondée sur l'entente entre les peuples, plus précisément sur l'organisation de la sécurité collective au moyen de l'assistance mutuelle. Nous croyons qu'il faut décourager l'agression éventuelle du fascisme en cessant de lui céder et en rassemblant tous les peuples menacés autour des grandes nations démocratiques, la France, l'Angleterre, les États-Unis et naturellement l'Union soviétique.
Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit.
L'Union soviétique paraissait depuis Munich la prochaine victime désignée de Hitler, et chacun citait l'Ukraine comme le prochain terrain du pan-germanisme abusif. Mais entre l'URSS et l'Allemagne, il y a la Pologne, dont l'amitié paraît certaine à Hitler le 30 janvier 1939.
Diesen Tag jährt sich zum fünften Mal der Abschluss unseres Nicht-Angriffspaktes mit Polen. Über den Wert dieser Vereinbarung gibt es heute unter allen wirklichen Friedensfreunden wohl kaum eine Meinungsverschiedenheit. Man brauchte sich nur die Frage vorlegen, wohin vielleicht Europa gekommen sein würde, wenn diese wahrhafte lösende Abmachung vor fünf Jahren unterblieben wäre.
Seulement, la Pologne ne veut pas d'une grande Ukraine placée sous la protection du Reich et ne veut pas abandonner Danzig et le corridor contre des compensations dans les pays baltes. Les négociations entre Ribbentrop et le colonel Beck à ce sujet ont été rompues le 2 février. La Pologne se tourne alors vers les Occidentaux. Donc, si Hitler veut poursuivre son expansion, et il le veut, il devra surmonter l'obstacle polonais et se heurtera à nouveau à l'Occident. Il lui faut donc rassurer de toute urgence l'URSS, lui faire comprendre que Munich ne compte plus.
Le 15 mars, Hitler viole délibérément les accords de Munich et occupe ce qui subsistait de la Tchécoslovaquie. Joseph Goebbels lit une proclamation d'Hitler à l'armée.
Soldaten der deutschen Wehrmacht. Mit dem 15. März 1939 beginnend werden daher Verbände des deutschen Heeres und der deutschen Luftwaffe in das tschechische Staatsgebiet einrücken, um hier Leben und Eigentum aller Bewohner des Landes gleichmäßig sicherzustellen.
Les démocraties ont été surprises, suffoquées même, par le coup de force qui met fin à la politique de Munich. On n'en saisit pas tout de suite la portée. Le 17 mars, Émile Buré en est encore à polémiquer sur l'esprit de Munich.
En mars 36, ce n'est plus contesté, la France a été victime du bluff hitlérien, et elle le fut encore en septembre dernier. On en aura quelques jours la preuve. En tous les cas, les Munichois, de bonne foi eux-mêmes, sont contraints de constater que sa défense et celle de l'Angleterre étaient beaucoup plus faciles alors qu'aujourd'hui. Mussolini était perdu quand Monzi persuada Daladier Bonnet qu'il le fallait appeler à Munich pour arbitrer le procès tchécoslovaque. Aujourd'hui que le tout-puissant Hitler l'appuie, il peut défier son roi lui-même. Il n'y a que Pierre Laval qui n'en ait pas conscience. Mais de quoi celui-ci peut-il bien avoir conscience quand il se mêle de politique extérieure? Il ne sait rien, il ne veut rien savoir, se fiant au génie de l'ignorance, qui, je l'avoue, l'a jusqu'ici fort bien servi personnellement.
Mais cette fois, les Anglais ont compris. Dans un discours prononcé à Birmingham, Chamberlain fait savoir à Hitler qu'il relève le défi.
What has become of those disclaimers of further territorial ambition? What has become of the assertion we do not want Czechs in the Reich? What regard has been paid here to that principle of self-determination for which Herr Hitler argued so vehemently with me at Berchtesgaden when he was asking for the severance of the Sudetenland from Czechoslovakia and its inclusion in the German Reich? Does not the question inevitably arise in our minds if it is so easy to discover good reasons for ignoring assurances so solemnly and so repeatedly given? What reliance can we place upon any other assurances that come from the same quarter?
Et nous avons beaucoup mieux. Prenez un parapluie pour danser la chamberlaine, puis au bras d'un de vos amis, vous le suspendez sans peine.
La guerre des nerfs est commencée. Écoutez le changement survenu dans le ton d'Édouard Daladier le 21 mars.
Nous avions envoyé une mission à Berlin pour y négocier un accord économique, base indispensable de l'établissement d'une collaboration durable. Mais comme je l'ai dit au Sénat, la conquête de la Tchécoslovaquie, l'occupation de Prague par les armées allemandes ont porté le coup le plus rude à ces patients efforts. Pendant des années, on nous avait parlé, pour justifier certains actes, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Depuis, on nous parla des aspirations naturelles. Voici maintenant qu'on nous parle de l'espace vital qui n'est que le perpétuel devenir de la volonté de conquête.
Dès le début mars, avant même l'occupation de Prague, Staline avait pu rassurer le Soviet suprême. La guerre n'aurait pas lieu entre l'Allemagne et l'URSS. Cette guerre qui approche, Pie XI ne la verra pas. Il meurt en février et le conclave lui donne aussitôt comme successeur le cardinal Pacelli.
Monseigneur Bossard annonce cette nouvelle aux Parisiens.
Mes chers auditeurs, au moment où je vous adresse la parole, les cloches de Notre-Dame, son vieux bourdon, annoncent à toute notre population parisienne la joie de l'univers à l'élection du cardinal Pacelli au souverain pontificat.
Aussitôt après le coup de Prague, les canons se sont tus en Espagne après la victoire totale du général Franco. Qui aurait maintenant intérêt à prolonger la répétition générale? Hitler a occupé le 22 mars Memel, en Lituanie.
De son côté, Mussolini occupe l'Albanie pour avoir une base de départ dans les Balkans qu'il se réserve. L'Adriatique est un golfe italien, dit-il, tout en rassurant quand même les Yougoslaves.
Géographiquement, historiquement, politiquement, militairement, il Méditerranée est un espace vital. Per l'Italia. E quando diciamo Mediterraneo, vi includiamo naturalmente anche quel golfo che si chiama Adriatico e nel quale gli interessi dell'Italia sono preminenti, ma non esclusivi nei confronti degli slavi. Ed è per questo che da due anni.
Maintenant que le pacte d'acier unit définitivement l'axe, les soldats italiens défilent au pas romain, le pas de loi de l'Italie fasciste. Les démocraties recensent leurs alliés. Elles se heurtent aux réticences des Grecs et des Roumains. Seuls les Turcs signent une alliance formelle. Pour éviter tout remous politique en France, on a neutralisé l'élection présidentielle en réélisant Albert Lebrun.
Ce n'est pas sans hésitation. J'ai fini par céder à ces instances désintéressées, à ces appels aux devoirs, et que j'ai accepté de continuer à remplir la mission pour laquelle on voulait bien me faire confiance. Si je l'ai fait, c'est qu'après mûre réflexion, j'ai pensé, appuyé sur des avis autorisés, en raison de la situation présente, devant un horizon international non encore complètement dégagé de tous ces nuages, il fallait donner à l'Europe troublée, travaillée par tant de forces contraires, l'image d'une France unie, résolue, forte, ayant le souci de la continuité et de la stabilité.
Désormais, Hitler a pris sa décision irrévocable. Ce sera la guerre le 1er septembre. Il demande à son état-major de tout préparer pour cette date. C'est un homme détendu qui a pris ses décisions quand il s'adresse au Reichstag le 28 avril pour répondre ironiquement à Roosevelt qui lui demandait de garantir sa volonté de non-agression.
Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, ihm die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet oder die Besitzungen folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen und vor allem nicht dort einmarschieren würden. Und er nennt als dafür in Frage kommend nun Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn.
Si les Allemands se préparent, il n'est pas question pour les Polonais de céder. Ils sont d'ailleurs très confiants et le colonel Beck, ministre des Affaires étrangères, multiplie les déclarations péremptoires.
La longue infidélité polonaise est oubliée.
Les discours se font musclés, résolus, farouches, tel celui du ministre de la Marine, le Corse César Napoléon Kempinski.
Derrière Édouard Daladier, le chef du gouvernement dont le nom est synonyme de défense nationale, un chef résolu, un gouvernement solidaire, un peuple unanime.
Très bien.
La France, messieurs, a fait et fera tout pour écarter le risque. Mais elle accepte résolument le risque et en aucun cas elle ne sacrifierait les conquêtes de la liberté aux servitudes de la paix.
Pour la ce soir ma ville là, te dira cher amour, jusqu'à l'aurore que je t'adore, bien plus encore et pour toujours.
Les camps sont formés. Face à la solidarité franco-britannique pour la croisade des démocraties, se dressent les puissances de l'Axe et leur allié japonais. L'Italie tente de se bercer de l'illusion de son égalité avec ses partenaires, que proclame le gendre du Duce, le comte Ciano.
È un formidabile strumento di collaborazione e di intesa che funziona in modo identico tanto a Roma quanto a Berlino.
Ils se mirent en ménage, comme de bien entendu. Elle avait du courage, comme de bien entendu. Il était au chômage, comme de bien entendu. Ça lui faisait déjà un gentil petit revenu, comme de bien entendu.
Pour le 150e anniversaire de la prise de la Bastille, Daladier présente fièrement l'armée de nos futures victoires, son œuvre de ministre inamovible de la Défense nationale.
Vous entendez les acclamations qui saluent non seulement le chef de l'État, mais aussi le chef du gouvernement, le président Édouard Daladier.
Souvenez-vous enfin de l'apparition de nos ailes intrépides, de notre aviation renaissante, unie dans les airs à l'aviation d'un grand peuple ami, qui protégerait notre sol comme nous protégerions le sien s'il nous fallait résister aux assauts de la violence.
Troisième régiment de Tarn, du premier temps émerge la silhouette du colonel, du second l'étendard, des engins redoutables s'avancent lourds, incertains. Ce sont les chars de combat qui dans la bataille de demain ouvriraient le chemin, comme ils disent, à la piétaille. Force dégage de la masse disciplinée de tous ces appareils est saisissant. Dans le bruit des moteurs assourdissants, leurs signes, ils dévalent la plus des Champs-Élysées comme ils se jetteraient sur un ennemi stupéfait et impuissant. Et puis voici, je passe le char Djibouti, le char Djibouti que la foule acclame particulièrement pour montrer.
On acclame les alliés anglais.
On frémit au passage des avions.
On est abasourdi par le fracas des chars.
Mais on n'oublie pas de fêter Marlène Dietrich et la France, insouciante, danse au carrefour.
Et ma jolie Hollande, avec lui.
Ça a bien marché, vous êtes content, ça va bien, oui? Bon, alors vous reviendrez l'année prochaine? Eh bien, vous pourriez peut-être rester jusqu'à l'année prochaine pour avoir de bonnes places, on sait jamais.